Première chose, donc, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est que la santé, c'est pour tous. Ce n'est pas réservé à quelques-uns. Donc, entrer dans un monastère pour être sain, voilà, c'est le seul moyen. Non, la santé est pour tous. Et ça, le Concile Vatican II a beaucoup insisté pour le présenter, pour le... Est-ce que vous connaissez la constitution majeure, on pourrait dire, le document majeur du Concile Vatican II? C'est le nom latin, c'est Lumen Gentium. C'est l'Église, je ne sais plus comment on dit. Enfin, Lumen Gentium, ça parle de la lumière des peuples, mais voilà. Mais donc, dans cette constitution sur l'Église... Donc il y a tout un mouvement, alors je vous dis deux, trois choses sur cette... Sauf si je vous répète des choses que vous connaissez déjà par cœur, je ne sais pas, non, ça va. Mais alors, il y a... C'est assez intéressant cette constitution. Il y a 8 parties. Jusque-là, vous suivez? 8 parties, 4 et 4. La première partie parle du mystère de l'Église. L'Église dans le cœur de Dieu, on pourrait dire. C'est, voilà. Après, on parle de tout le peuple de Dieu. Après, on parle de la hiérarchie, les évêques d'abord, et puis aussi les prêtres, et les diacres. Après, on parle des laïcs. Et après, c'est l'Église qui vient de Dieu et qui retourne à Dieu. Et après, justement, dans le cinquième chapitre, c'est l'appel universel à la santé. Tous nous sommes appelés à retourner vers Dieu. Et après, dans le chapitre 6, c'est la vie religieuse, la vie consacrée. Justement, eux, normalement, enfin, on n'est pas forcément des exemples, hélas, mais normalement, d'une certaine façon, on n'a plus notre place dans la vie consacrée si on ne désire pas être saint. À vrai dire, je crois qu'on pourrait même le dire d'un baptisé, mais... a fortiori d'un religieux. Il n'a plus sa place dans la vie consacrée s'il n'a plus envie d'être saint. Saint Benoît disait, mais voilà, c'est la conversion. Si on n'a plus envie de se convertir, ben, c'est plus la peine. Vraiment, notre vie, c'est un engagement à vraiment travailler pour notre part. La santé, c'est d'abord un don de Dieu, mais si on veut rester sans faire d'efforts, c'est plus la peine. Voilà. Alors donc, il y a l'appel universel à la santé, les religieux. Après, c'est l'Église qui est déjà, voilà le titre, le caractère eschatologique de l'Église en marche et son union avec l'Église du ciel. Là, on voit le lien avec les saints et tout ça, du ciel. Et le 8e chapitre sur la Vierge Marie. Mais ce qu'ont désiré les pères conciliaires, c'est vraiment de voir l'Église un peu comme un corps où chacun avait bien sa place, mais il ne s'agit pas de prendre la place de l'autre et tout ça. Quelquefois, on confond un peu les choses et on n'est pas vraiment à sa place. Chacun, on a vraiment sa place dans le mystère de l'Église. Alors, par exemple, pour la Vierge Marie, il y a eu des tas de discussions. Est-ce qu'on fait un document que sur la Vierge Marie, voilà, et sur ses privilèges, etc. Ou alors... En tout cas, l'option qui a été retenue par les pères de l'Église, c'est de ne pas faire de document spécial sur la Vierge Marie, mais d'en faire un chapitre dans le document sur l'Église, pour montrer que Marie, elle n'est pas en dehors de l'Église, quelque part. Et que Marie, c'est notre modèle, c'est aussi dans son assomption, elle est comme un signe de ce qu'on est appelé à être. Voilà, donc Marie est vraiment dans l'Église. Donc, voilà. Et dans ce document, donc, le Concile a insisté... largement pour dire, mais non, tous sont appelés à être saints. Là, je peux vous prendre quelques citations. Déjà, des citations de la parole de Dieu, hein, c'est mieux que le concile encore. Ouais. Soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Ça, c'était dans le Lévitique. Ou Jésus dans Saint Matthieu. Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. D'ailleurs, c'est intéressant, dans Saint Luc, le verset équivalent, c'est pas parfait, le mot qu'il emploie, c'est miséricordieux. Ça nous donne un peu le sens de cette perfection. c'est plutôt dans l'ordre de la miséricorde que dans le sens de, voilà, du perfectionnisme dont on a parlé tout à l'heure. Où saint Paul, la volonté de Dieu, c'est que vous deveniez des saints. Donc c'est clair et net. Ou encore saint Paul, Dieu nous a élus en lui dès avant la fondation du monde pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Voilà ce que dit le Concile. Il est bien évident, j'espère que c'est évident, pour tous, que l'appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité s'adresse à tous ceux qui croient au Christ, quel que soit leur état ou leur rang. Voilà. Et Jean-Paul II, donc, si vous voulez travailler un petit peu cette question de la sainteté, il y a notamment cette cinquième partie de Lumen Gentium, donc ce document du Concile du Vatican II. Il y a aussi, dans la lettre pour commencer le nouveau millénaire, Jean-Paul II parle de la sainteté aussi comme d'un programme pastoral. Quelque part, il dit, ça peut paraître bizarre de proposer la sainteté comme programme pastoral, mais il semble que la meilleure chose qu'on peut, c'est encourager les gens à la sainteté. Et voilà ce qu'il dit. Ça rejoint ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. Mais si le baptême fait vraiment entrer dans la sainteté de Dieu, au moyen de l'insertion dans le Christ et de l'inhabitation de son esprit, ce serait un contresens que de se contenter d'une vie médiocre, vécue sous le signe d'une éthique minimaliste et d'une religiosité superficielle. Demander à un catéchumène « Veux-tu recevoir le baptême ?» signifie lui demander en même temps « Veux-tu devenir saint ?» Cela veut dire mettre sur sa route le caractère radical du discours sur la montagne « Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. » Donc il y a ça c'est un premier point. La sainteté, c'est vraiment un appel adressé à tous. C'est pas une catégorie et puis nous on peut... Eux, ils prient dans leur monastère, et puis après, moi, je fais ce que je peux là où je suis. Non. Alors, c'est vrai que dans les monastères, j'ai pas compris. Mais ça, vous aussi, vous êtes appelés à être saints. Ceci dit, pas de la même façon que les religieux dans leur monastère. Alors, je voulais relever, justement, différents éléments sur la sainteté du mariage. Ça, c'est... On en a pas mal parlé, je crois que c'est en 2001 que Jean-Paul II a béatifié Luigi et Maria Beltrame Quattrocchi, un couple italien, un couple de Rome. Mais pour la première fois dans l'histoire de l'Église, il les a béatifiés en tant que couple. C'est déjà arrivé dans l'histoire de l'Église que monsieur soit saint, voilà, puis madame est sainte, voilà. Mais là, c'est pas la même chose. D'ailleurs, c'est un peu injuste, je trouve, pour eux. Parce que eux ont eu besoin d'un miracle pour deux, tandis qu'un. Donc c'était un miracle obtenu par leur commune intercession. Mais alors du coup, dans le missel, hein, il y a différentes catégories souvent. Là, ils n'ont pas encore mis catégorie des gens mariés, mais sinon il y a les pasteurs, les docteurs de l'Église, les vierges, les martyrs, les. Voilà, les religieux, voilà, il y a différentes catégories. Et là, donc, depuis 10 ans, il y a aussi, pas encore dans le missel, mais il y a donc les gens mariés, en tant que couple. Alors voilà ce que disait ce jour-là, donc c'est en 2001, en octobre 2001. « Chère famille, aujourd'hui nous avons une confirmation singulière que le chemin de la sainteté accompli ensemble, en tant que couple, est possible. » Est beau, est extraordinairement fécond et fondamental pour le bien de la famille, de l'Église et de la société. Bien la famille, de l'Église et de la société. Donc depuis, il y a aussi les parents de la petite Thérèse qui ont été béatifiés, donc en tant que couple. Voilà. Il me semble, alors peut-être vous voyez, il y a une question en bas de votre papier, c'est sur le sacrement du mariage, je crois, oui, voilà. Une autre question qui me tient à cœur, c'est celle de la grâce du sacrement de mariage. Parce que, quelquefois, comment dire ça ? Quand on fait des activités pour les couples, il y a des temps de dialogue, tout ça, c'est très bien. Mais à la limite, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour ça. Alors, ce n'est pas toujours simple de voir exactement qu'est-ce que donne la grâce du sacrement de mariage, qu'est-ce que... Mais bon, vous pourrez méditer un peu là-dessus tout à l'heure. Alors, je peux vous lire quelques éléments. Parce que le Concile Vatican II a mis en honneur aussi cette grâce du sacrement de mariage. Voilà. Donc le Seigneur vient à la rencontre des époux chrétiens par le sacrement de mariage. Il continue de demeurer avec eux pour que les époux, par leur don mutuel, puissent s'aimer dans une fidélité perpétuelle, comme lui-même a aimé l'Église et s'est livré pour elle. L'authentique amour conjugal est assumé dans l'amour divin et il est dirigé et enrichi par la puissance rédemptrice du Christ. C'est peut-être des mots un peu compliqués. Mais... Et l'action salvifique de l'Église. Quelque part, la grâce du mariage, elle... Alors j'aime bien prendre un parallèle, c'est entre l'Eucharistie et le mariage. Entre avant la consécration et après la consécration, avec vos yeux de chair, vous ne voyez pas grande différence. L'hostie, elle n'a pas changé de couleur, elle n'a pas changé de goût, elle n'a pas... Voilà. Mais la foi vous fait savoir que c'est tout différent. Avant, c'était du pain, maintenant, c'est le corps de Jésus. Donc, il y a un changement radical. Pendant le sacrement de mariage, alors j'aime bien aussi qu'on prenne un champ à l'Esprit-Saint avant le consentement des époux, parce que c'est vraiment, à partir du moment du sacrement de mariage, ce n'est pas simplement un amour humain, même s'il est très beau, qui unit les époux, mais c'est l'amour de Dieu qui unit les époux. Et du coup, c'est un petit peu comme au moment de la consécration. Entre l'amour qu'un jeune couple de fiancés se porte avant d'entrer dans l'église le jour de leur mariage et en sortant de l'église, extérieurement, vous ne voyez pas grande différence peut-être. Ils sont peut-être moins tendus après qu'avant, je ne sais pas. Mais voilà. Mais ceci dit, c'est tout différent. D'une certaine façon, on ne voit pas extérieurement grande différence, mais en réalité, il y a un saut de qualité. C'est plus seulement un amour humain qui les unit, mais c'est l'amour de Dieu qui les unit. Donc peut-être ça peut vous aider de faire ce parallèle avec l'Eucharistie, où on ne voit pas non plus la différence. Et comme l'Eucharistie, bon, le Seigneur est présent tant que les espèces demeurent, mais tant que les époux sont vivants, voilà, il y a cette grâce du mariage qui les unit. Et c'est un saut indélébile, hein, ce lien est indissoluble. Mais il est indissoluble précisément parce que Dieu est présent dans le sacrement du mariage. Le sacrement du mariage, c'est pas le style d'un contrat. On se met d'accord, on signe. Si un jour on n'est pas d'accord, bon, on déchire le contrat tous les deux, et puis voilà. Non, c'est une grande différence entre le mariage, au moins dans un courant protestant, et puis dans l'Église catholique. Il y avait un article dans Libération une fois qui m'a aidé à le comprendre. C'était, il disait, les pays de tradition catholique surdramatisent la rupture. Et finalement, c'était intelligent. C'est parce que chez les catholiques, on pense que Dieu est vraiment présent. Et du coup, voilà, nous, on n'a pas le pouvoir de délier et de retirer en quelque sorte la présence de Dieu. Dieu s'est vraiment engagé dans le sacrement du mariage. Voilà. Bon, je ne vais pas développer davantage mais, sur cet aspect du sacrement de mariage, mais je pense que c'est important d'y revenir pour voir, mais encore une fois, c'est un sacrement dans la foi. Ce n'est pas en se tapant debout qu'on saura si c'est l'amour de Dieu qui circule dans nos veines, mais c'est parce que Jésus s'est engagé aussi à donner sa grâce. Et je crois que c'est très important, particulier à tout moment, mais aussi pour se dépasser dans l'amour, dans le don de soi. Parce qu'à certains moments, on peut être un peu découragé, on peut avoir des moments un peu plus difficiles. Mais voilà, je sais que je ne suis pas seul, Dieu est là. Voilà, encore faut-il y croire. Voilà. Troisième point sur la... C'est... Une fois, Raniero Cantalamessa, c'était au moment de Noël, il y a 3-4 ans, avait dit une chose que je trouvais très intéressante. Encore une fois, dans l'Église, chacun a une vocation un petit peu particulière. Les religieux, leur vocation, c'est d'indiquer un petit peu le ciel. Je ne sais pas si c'est toujours le paradis ici, mais bon. N'empêche, comme Jésus dit dans l'Évangile, au ciel on ne se marie pas, tout ça. Donc voilà, nous, quelque part, notre vocation, elle doit indiquer, voilà, si c'est juste pour la terre, c'est stupide d'être religieux, et voilà. Et si on ne croit pas à la vie éternelle, il n'y a plus de vie consacrée, c'est pas la peine, quoi. La vie consacrée ne peut se comprendre que par rapport au ciel. Je ne rentre pas dans les détails. Mais la vocation du mariage, c'est vraiment une vocation à l'amour. Hein. Ce n'est pas une vocation de deuxième zone. C'est vraiment une vocation à l'amour. Donc, Raniero Cantalamessa disait justement, quelquefois, les religieux peuvent être un peu à côté des contingences matérielles, etc. Mais dans les familles, on est très près aussi de se donner aussi dans le concret de la vie auprès des enfants et tout ça pour donner la vie, etc. De manifester cet amour. Je pense, j'ai dans l'esprit une jeune fille qui désirait être religieuse. Et cette jeune fille, je crois que si elle était restée dans la vie religieuse, elle se serait pas souvent levée la nuit pour prier ou voilà. Mais quand elle a été mariée, qu'elle a eu des enfants, mais elle s'est levée la nuit par amour pour ses enfants. Quelque part, cet amour aussi qu'elle avait pour ses enfants l'a poussée un petit peu à se dépasser elle-même. Et je crois que exactement. Et c'est vrai, mais c'est tout à fait vrai. Vous n'avez pas forcément trop le choix, mais vous acceptez aussi de le faire plutôt que de le jeter par la fenêtre. Hein. Et certaines fois, c'est pas pour autant que vous êtes violent. Bon, quelquefois, on peut en avoir un peu assez, mais quand ça dure des mois et des mois, mais bon. Mais c'est quand même ça oblige un dépassement de soi-même. Allez, les enfants vous tirent le meilleur de vous-même d'une certaine façon. C'est pas toujours voilà. Mais là aussi, c'est puiser dans ce sacrement de mariage pour vivre de cet amour. Parce que le sacrement est là vraiment pour le principal fruit du sacrement de mariage. La première fois que je l'ai entendu, je trouvais que c'était un peu négatif. C'est la lutte contre l'égoïsme. Alors je trouvais que c'était un peu négatif, mais en fait, je vois que c'est très vrai. Parce que constamment, on a tendance à se recentrer sur soi-même, mais être tourné vers Dieu, vers les autres, c'est pas spontané. Hein. Comme la pesanteur, voilà, on se regarde soi-même souvent. Et voilà. Et la grâce du sacrement du mariage, c'est justement de ne pas se replier sur soi, mais de se donner. Se donner à Dieu et se donner aux autres. Sa femme, ses enfants. Le cardinal Danels disait quelque chose, c'est le point mission particulière au seuil du troisième millénaire. Il disait quelque chose que je trouvais intéressant. Il disait dans les premiers siècles, voilà, ce qui est un peu le fer de lance de l'Église, c'était les martyrs. Voilà. Les gens qui étaient capables de donner toute leur vie pour Jésus, d'être massacrés et tout ça, mais voilà. À vrai dire, il y a encore beaucoup de martyrs aujourd'hui. Hein. Jean-Paul II a mis en valeur aussi, il y a eu plus de martyrs au XXe siècle que dans les 19 siècles qui ont précédé. Donc, le martyr, c'est pas non plus une chose passée, c'est une chose... Bon. Mais ça apparaissait quelque chose de très clairement dans les premiers siècles. Après, c'est quand... les périodes de persécution au IVe siècle sont dans l'Empire romain en tout cas sont arrêtées. C'était plus la vie monastique. Voilà. Et alors avec un peu plus tard Siméon le Stylite et tout ça, enfin tous ces braves là. Voilà. Après, c'était tous ceux qui sont engagés, les religieux, religieuses, dans le monde de l'école, de l'éducation, de la santé, etc. Ça, c'était un moment. Pour lutter, oui, contre l'ignorance, la superstition, la maladie, etc. Mais aujourd'hui, disait, c'est le témoignage de la famille. Je cite. Tout ceci continue, mais je suis de plus en plus convaincu d'une chose. Aujourd'hui, c'est un autre facteur qui joue. C'est le témoignage de la famille chrétienne qui fait la crédibilité de l'Église. C'est ici que notre civilisation trouvera ses puits de Jacob pour étancher sa soif et s'abriter de la chaleur. C'est ici que tant d'hommes et de femmes trouvent le remède à la solitude. En tant que famille, nous devons rendre l'Église crédible aux yeux du monde. Si nous parvenons à montrer que la foi chrétienne est capable de créer des foyers heureux, forts et tendres, qui soient des lieux d'espérance et de guérison, alors le monde croira. C'est par milliers qu'ils accourront, comme le point d'eau attire les oiseaux du ciel ou les animaux de la forêt. Je crois que c'est assez vrai ce que dit le cardinal Danens. Là, la famille, c'est une des choses qui est les plus attaquées aujourd'hui. Vous avez dans vos connaissances beaucoup de gens qui se séparent et qui, voilà. Et le fait d'être témoin d'un amour fidèle, et qui surmonte aussi les épreuves et tout ça, c'est vraiment un témoignage dont les gens ont besoin. Si on voit que tout le monde se sépare, voilà, le jour où il y a une épreuve, on fait comme tout le monde, quoi. Si sur notre route on a quelques lueurs qui nous disent non, c'est possible quand même de rester fidèle, même quand dans des moments où c'est plus compliqué, voilà, ben, je m'accroche à cette petite lumière pour traverser un moment plus sombre. Et puis voilà. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose, une mission fondamentale de la famille aujourd'hui, la famille chrétienne. Voilà. Je passe au troisième point. Ça va? Vous dormez pas encore? Personne. La sainteté dans la vie temporelle. Alors j'ai lu, en essayant de préparer pour vous, ça m'a fait du bien en fait, plusieurs choses assez intéressantes, je trouve. Il y a des choses qu'on sait plus ou moins, mais voilà. En tout cas, alors là, peut-être, quelqu'un qui peut nous guider un peu, c'est le fondateur de l'Opus Dei. Alors, je ne suis pas un habitué de l'Opus Dei, mais quand on recherche dans ce domaine-là, on tombe beaucoup sur lui, parce qu'il avait très à cœur le fait de vivre sa foi là où on est, pas s'extraire de son milieu de travail, et puis vivre sa foi dans... Voilà, le dimanche et tout ça, dans sa famille, mais au travail, non. Pour lui, alors, ce qui ne veut pas dire vivre sa foi au travail, ça ne veut pas dire faire du prosélytisme au travail, c'est deux choses quand même différentes. Mais pour lui, c'est les laïcs chrétiens sont appelés à rendre le Christ présent là où ils sont. Vous êtes comme les ambassadeurs, en quelque sorte, du Christ, là où vous vivez, dans votre entreprise, même si elle n'a rien d'humanitaire ou je ne sais pas, mais n'empêche qu'il y a des hommes dans cette entreprise. Donc de rendre le Christ présent. Je crois que vers 1930, si j'ai mon souvenir, il a eu comme une vision, une image en tout cas, d'une croix qui était plantée dans le monde, voilà, vraiment dans le monde, pas à côté, dans une église, voilà, mais voilà, comme dans le milieu de travail. Ce qui ne veut pas dire non plus forcément mettre une croix dans votre lieu de travail, croix matérielle, mais voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, ça c'est Jean-Paul II qui disait ça justement à des membres de l'Opus Dei. Pour nous aussi, donc, le quotidien dans sa grisaille apparente, dans sa monotonie faite de gestes qui semblent se répéter, toujours semblables, peut acquérir l'importance d'une dimension surnaturelle et en être ainsi transformé. Pour reprendre l'image de l'Eucharistie, aussi, quelque part, votre travail peut changer, peut être comme transfiguré aussi, selon que vous pensez que Dieu se rend sur votre lieu de travail avec vous. Et vous ne serez pas tout seul à votre lieu de travail, même si certains lieux de travail sont un peu compliqués. Encore de Jean-Paul II. le Christ invite tout le monde à se sanctifier dans la vie concrète de chaque jour. C'est pourquoi le travail est aussi un moyen de sanctification personnelle et d'apostolat quand on l'accomplit avec Jésus-Christ. Car en s'incarnant, le Fils de Dieu s'est uni en quelque sorte à toute la réalité de l'homme et à la création tout entière. Une citation sympathique, c'est de, vous connaissez Frère Laurent de la Résurrection, c'est un carme du XVIIe qui parlait beaucoup de la présence de Dieu. Et il vivait beaucoup dans la présence de Dieu. Donc, la réalité, tout ce qu'il faisait dans sa journée était complètement différent. Ce n'est pas une réalité plate, bon, le quotidien. Mais tout ce qu'il faisait, comme il le faisait avec Jésus, il le voyait autrement. Alors, donc il était cuisinier, hein, son monastère. Et voilà ce qu'il dit. Donc, pour être saint, il n'est pas nécessaire d'avoir de grandes choses à faire. Je retourne ma petite omelette dans la poêle pour l'amour de Dieu. Quand elle est achevée, si je n'ai rien à faire, je me prosterne par terre et adore mon Dieu de qui m'est venue la grâce de la faire. Après quoi, je me relève plus content qu'un roi. Quand je ne puis autre chose, c'est assez pour moi d'avoir levé une paille de terre pour l'amour de Dieu. Alors, je ne sais pas si dans votre cuisine... Ah, béni soit-il, Seigneur, de m'avoir donné... de réussir cette omelette et tout ça, mais c'est une autre façon de voir la vie. Hein. Alors, il n'y a pas que l'Opus Dei. L'Opus Dei n'a pas le monopole. Il y a un mois à peu près, on a fait un week-end pour des jeunes professionnels et il y a des membres de la communauté de l'Emmanuel qui sont venus. On désirait présenter le parcours Zaché. Ben, il en a été question il n'y a pas longtemps dans la famille chrétienne, je crois. Mais l'idée du parcours, c'est aussi de ne pas avoir d'un côté la vie à la maison, tout ça, et de l'autre côté la vie au travail, et puis un peu à la paroisse. C'est d'avoir une unité de vie, pour ne pas être non plus tiraillé. Alors, il y a beaucoup, dans ce parcours Zaché, vous pourrez trouver un, sans doute à la librairie, je n'ai pas encore fait de flash publicitaire, il y a une belle librairie. La maison que vous voyez. Et dedans, il doit rester d'ailleurs de ce week-end quelques livres. C'est Le compas et la boussole. Deux livres qui. Bon, c'est plus des livres avec un CD pour. Voilà. Et des exercices pratiques, justement, pour petit à petit arriver à ce qui est plus d'unité dans notre vie. Parce que c'est pas toujours simple. Je passe au quatrième et dernier point. Voilà, on va y arriver. Ne désespérez pas. La spécificité du laïcat. Comment je vais dire ça ? Il y a quelque chose de relativement nouveau, quand même. Alors, c'est Jean-Paul Ier, cette fois-ci. Alors, il s'adressait aussi à des membres de l'Opus Dei. Mais du coup, il parle d'abord, dans un premier temps, de Saint François de Sales. Saint François de Sales, c'était déjà quelqu'un qui a beaucoup œuvré aussi, justement, pour que... il pensait vraiment que tous étaient appelés à la sainteté. Donc... quel que soit leur état. Il a des très beaux textes là-dessus, Saint François de Sales. Voilà ce que dit Jean-Paul Ier, juste avant d'être élu pape. Ce sont des choses semblables qu'avait enseigné Saint François de Sales, presque 300 ans auparavant. En chair, un prédicateur avait alors publiquement voué aux flammes le livre dans lequel le saint expliquait que, sous certaines conditions, le bal peut être licite. Et où il allait même jusqu'à consacrer un chapitre entier à l'honnêteté du lit matrimonial. Monseigneur de Balaguer, cependant, va beaucoup plus loin que François de Sales. François de Sales prêche aussi la sainteté pour tous, mais il semble n'enseigner qu'une spiritualité des laïcs. Alors, qu'est-ce qu'il va veut une spiritualité laïque ? François, en effet, suggère presque toujours aux laïcs les mêmes moyens que ceux qu'emploient les religieux avec les ajustements opportuns. Et Scriba, lui, est plus radical. Il parle carrément de matérialiser, dans le bon sens, la sanctification. Pour lui, c'est le travail matériel lui-même qui doit se transformer en prière et en sainteté. Et l'idée de Escriva, c'était justement qu'on n'est pas cette unité de vie, vraiment, on est saint là où on vit, et pas en faisant des choses un peu comme les religieux à côté. Et dans le concile, ils insistent justement par rapport aux prêtres, dans la façon de se situer par rapport aux prêtres, je saute des petites choses, voilà. Justement, il y a une place des laïcs qui est où les prêtres ne peuvent pas les remplacer. Toujours Escriva se disait anticlérical. Alors, il faut voir dans quel sens. Moi, je suis un anticlérical parce que je veux que le clergé soit le clergé, qu'il ne se trompe pas et qu'il se contente, et ce n'est pas peu, de sa mission spirituelle. Et en revanche, il pensait que les laïcs, voilà, c'était vraiment eux qui avaient à assurer la présence et l'action de l'Église dans les lieux où les prêtres ne pouvaient pas aller. C'était vraiment par les laïcs que le Seigneur pouvait se rendre présent dans certains lieux. Et justement, alors il manque de prêtres, tout ça, donc quelquefois il y a des laïcs qui peuvent assurer un certain rôle de suppléance pour certaines choses, bon, c'est très bien. Mais en même temps, voilà ce que disait le cardinal Danels, encore. Certes, le laïc peut prendre sur lui des charges qui appartiennent plutôt au fonctionnement interne de l'Église. Il y a une place pour les animateurs pastoraux et pour d'autres, surtout en cette période de raréfaction des vocations. Mais la place du laïc est d'abord en plein vent et non à l'abri des murs quelque peu protecteurs de l'institution ecclésiale. Je vais m'arrêter là. C'était au moins pour souligner cet aspect d'une vocation très particulière. C'est encore pour avoir cette image du corps. Chacun a sa place et la sainteté d'un laïc et d'un père de famille, d'une mère de famille n'est pas la même que celle d'un religieux. Et nous sommes appelés à être saints là où nous sommes, pas en déménageant, voilà. Mais c'est là où on est planté qu'on est appelé à être saints. Amen.